Qu'y a-t-il ?
Je viens de détecter une déficience de l'antenne radar.
Veuillez vous présenter à l'identification vocale.
Je veux que vous me parliez. Je voudrais vous entendre.
Est-ce excessif ?
S'il vous plaît, répondez-moi.
Cinérama.
Bonjour.
C'est bien. Encore une fois, bien articulé.
Cinérama.
Parlez normalement et détachez bien chaque réponse.
De quoi s'agit-il ?
Question intéressante.
Actualité cinéma.
Ah, un petit mot encore.
Et tout le reste.
En fait, nous avons tous les renseignements utiles. Oui, merci.
Juste un petit détail afin de mettre mon dossier à jour.
Vous avez vu un bon film aujourd'hui ?
Eh bien, oui, je crois que oui.
Oui. Non.
Bonjour et bienvenue, c'est Cinérama, émission d'actualité sur le cinéma et on fête aujourd'hui le retour de Marine. Bonjour Marine.
Bonjour à tous.
Et tu as vu deux films aujourd'hui.
Oui, alors j'ai vu un premier film qui s'appelle A Ghost Story qui était présenté au festival de Deauville l'année dernière de David Lowery et je vous parlerai également d'un documentaire consacré à Maria Callas, Maria by Callas.
Et puis toi Manu, eh bien, tu fais partie des plus de 2 millions de spectateurs qui sont allés voir Star Wars.
Et oui, le dernier Jedi de Rian Johnson. Et puis, je vous parlerai aussi d'un tout petit film argentin, La fiancée du désert.
Qui n'a rien à voir. La promesse de l'aube de Éric Barbier, ça, je vous en parlerai. C'est le film avec Pierre Niney et Charlotte Gainsbourg. Et puis, je parlerai aussi de Jumanji, Bienvenue dans la jungle. Film bien qui sort pour Noël. Une comédie plutôt d'aventure. Et ce sera l'occasion eh bien, de jouer un blind test spécial jeux vidéo à l'intérieur du cinéma. Enfin, la relation entre les jeux vidéo et les personnages au cinéma. Mais on commence avec l'événement Star Wars.
Avez-vous remarqué qu'on tourne de moins en moins de films d'action actuellement ?
Oui. Cinérama.
Le monde devient philosophique.
Quand je t'ai trouvé, j'ai décelé en toi une puissance brute et indomptée. Et au-delà de ça, autre chose de tout à fait exceptionnel.
Que serait Star Wars sans la grosse voix,
c'est la voix du méchant Snoke, oui. Par ailleurs. Hein. Alors, on risque de spoiler, hein, mais ce n'est pas une surprise, hein, juste un secret de Polichinelle. Les derniers Jedi ne sont pas vraiment les derniers. Il en restera toujours et ils seront remplacés tant que la franchise aura du succès. Alors, passez cette mise au point, que vaut ce nouvel épisode de Star Wars ? Loin des débats passionnés et raisonnés qui agitent les fans de la première heure et de la dernière aussi. Le réveil de la force avait déçu une partie de la communauté geek surtout, hein, mais enthousiasmé aussi les admirateurs de J.J. Abrams et les amateurs de spectacles bon enfant sur fond de nostalgie assumée et même revendiquée. Alors l'arrivée d'un auteur derrière la caméra allait-elle chambouler l'univers si codifié de la saga qui, malgré les qualités du précédent opus, avait besoin d'un coup de sang, enfin, d'une échappée libre vers d'autres contrées, surtout de développer un scénario qui reposait dans le réveil de la force beaucoup sur les acquis du passé. Alors Rian Johnson, à qui l'on doit l'épatant polar cérébral Brick et le formidable thriller de SF Looper, ne se contente pas d'assurer la mise en scène, mais il signe aussi le scénario de ce 8e épisode pour un résultat mitigé mais globalement rassurant quant à la suite des aventures de nos Jedi.
Il est temps d'accomplir ton destin.
Alors, pour rappeler les faits, hein, l'histoire est toujours la même. Hein, la résistance dirigée par la générale Leia lutte contre l'Empire emmené par Snoke et son bras droit Kylo Ren, qui n'est autre que le fils d'Han Solo. Alors, pendant ce temps, Rey, la nouvelle Jedi, tente de convaincre Luke Skywalker, exilé sur la planète Océan Acto, je ne sais pas si on dit comme ça, de rejoindre le combat. Et c'est à peu près tout. Alors la déception de ce 8e épisode, hein, au-delà des débats que je disais passionnés, tient avant tout à son scénario manichéen et finalement décevant. L'éternel combat du bien contre le mal pose néanmoins quelques questions, surtout pour les novices. Alors pour quelles raisons la guerre a-t-elle lieu ? Quels sont les enjeux politiques, idéologiques, humains ? À part le fameux mythe de David contre Goliath, du plus faible contre le plus fort, le scénario s'en tient à son cahier des charges, avec quelques mini-révélations ou pistes à venir pour maintenir l'intérêt. Alors toute l'ambiguïté sur le conflit intérieur qui secoue les Jedi, alors Rey et Kylo en tête, hein, sur leur appartenance au bien et au mal et cette attirance vers l'obscurité, paraît un peu réchauffée aujourd'hui et ressemble à une marque de fabrique. Hein. La pensée orientale a toujours imprégné les Star Wars à travers le concept du yin et du yang. La saga puise depuis ses débuts du côté de l'imaginaire et de la philosophie des films de samouraï. Et là-dessus, c'est plutôt pas mal parce que Rian Johnson, il a bien saisi cette ambiance, cette esthétique aussi des films, je pense on pense surtout au film de Kurosawa. Alors rappelons d'abord que pour les plus jeunes, hein, que George Lucas, il s'était ouvertement inspiré d'un film justement de Kurosawa, La forteresse cachée. Alors cette inspiration intéressante à ses débuts est désormais réduite à quelque chose d'un peu manichéen. Production, on va dire, Disney oblige. Mais passé la relative déception d'une ligne narrative conventionnelle, le scénario réserve aussi de très belles surprises et quelques changements. Rian Johnson tente de prendre le contre-pied d'Abrams et de tourner le dos au passé. En gros, il faut se débarrasser des anciens et avancer. Casser aussi une certaine imagerie fétichiste, représentée symboliquement par le casque de Darth Vader, hein, qui ici va prendre un peu cher. Mais la plus grande qualité des derniers Jedi tient à la mise en scène inspirée qui retrouve un sens de l'épique et du lyrisme lors des scènes de bataille absentes depuis longtemps. Alors, le sacrifice de la vice-amirale Amilyn Holdo, incarnée par une très convaincante Laura Dern, malgré sa coiffure violette, hein, est un moment assez somptueux. La musique s'arrête, Rian Johnson hausse des plans fixes saccadés de toute beauté lors d'explosions qui renvoient d'un coup à une ambition plastique digne de 2001. Alors, autre moment incroyable, l'affrontement entre l'Empire et les rebelles dans le désert de sable qui devient rouge dès qu'on y pose les pieds. C'est dans ces purs dispositifs sensitifs que ce nouvel opus retrouve une magie perdue et mieux qu'il parvient à se singulariser, transcender une histoire que l'on commence à connaître un peu par cœur. Et si on peut s'agacer d'un décorum parfois inutile, hein, comme ces bestioles toutes mignonnes, les porgs, je crois, qui sont juste là pour rien, on pourrait les enlever, ça ne changerait rien à l'histoire. Oui, mais contrairement aux Ewoks qui finalement participaient vraiment à l'univers diégétique du film. Là, les porcs, ça ne sert à rien. Des dialogues aussi parfois sentencieux, mais là, ce n'est pas vraiment nouveau et c'est un peu la marque de fabrique des Star Wars. Et puis là, par contre, un humour qui tombe quand même à plat. Alors malgré tout ça, hein, on peut prendre un vrai plaisir à un spectacle édifiant mais parfaitement exécuté qui ouvre aussi quelques perspectives très intéressantes pour le prochain épisode.
Ah oui, qui est déjà programmé, forcément. Et vous pouvez le voir en VO sous-titré, en VF, en IMAX. 4DX, en IMAX, voilà, et en 3D. On passe à tout autre chose, c'est Ghost Story, un film dans les salles depuis le 20 décembre.
Vous avez vu un bon film aujourd'hui ?
Cinérama.
Non, j'ai été plutôt déçu.
Alors c'était sûrement une comédie.
Oui, alors là, je préfère vous prévenir, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup moins d'action. Hein. Donc, A Ghost Story de David Lowery, un jeune musicien casé à Fleck qui vient d'emménager dans une nouvelle maison avec sa copine, interprétée par Rooney Mara, meurt soudainement dans un accident de voiture. Son fantôme commence alors à hanter leur maison, il doit contempler impuissant le deuil de la femme qu'il aime, et comme tout bon fantôme, eh bien, il s'acharne évidemment à effrayer les nouveaux habitants qui tentent d'emménager. All the awful dreams felt real enough. Did you love her then? She waking up. Did she die in the night? Leave you alone. Love. Ce qu'on entendait, c'était donc un des morceaux composés par le personnage de Casey Affleck dans le film. Alors, A Ghost Story de David Lowery est un film relativement inclassable. C'est résolument indé, très poseur. Ça demande un certain effort de concentration de la part du spectateur pour être embarqué dans cette histoire plutôt succincte. Mais ça a l'avantage de ne ressembler à rien de ce que vous pourrez voir en salle ces jours-ci. Au festival de Deauville, où le film a été présenté, les premières apparitions du fantôme ont fait pas mal rigoler dans la salle. Et pour cause. Exit les fantômes du type sixième sens, exit les ectoplasmes, les spectres. On en revient à la bonne vieille vision traditionnelle du fantôme, à savoir un drap et deux trous pour les yeux, qu'on ne voit même pas d'ailleurs, ce qui peut en effet parfois prêter à rire. Mais si A Ghost Story prête à rire, le film donne aussi à penser en abordant le sujet du deuil, bien sûr, mais d'une façon plus large, la question de l'éternité, de l'immortalité et même de notre présence sur Terre. Alors le film prend son temps et pas qu'un peu. Pour parler d'immortalité, il fait le choix de laisser les scènes durer, le plus souvent sans la moindre parole, mais avec une musique assez envahissante. L'effet est radical, hein. Soit vous trouvez l'ensemble très beau, soit extrêmement ennuyeux. Moi, j'ai trouvé ça plutôt réussi, notamment grâce aux deux interprètes qui ont un charisme certain. Bon, alors, encore que, comme Casey Affleck passe tout le film avec un drap sur le visage, on ne sait finalement pas si c'est lui. Ça pourrait très bien être Danny Boone en dessous.
On bien sa voix, quand même.
Il ne parle pas, c'est un fantôme.
Ah oui, c'est vrai.
Donc, ça pourrait vraiment être n'importe qui. Alors, l'image est au format carré, avec les angles qui sont légèrement arrondis. C'est très beau, ça peut agacer aussi. Le film a un côté ultra léger, qui le rend donc presque prétentieux. Parfois, la photographie est très soignée, la plupart des plans sont d'une beauté hypnotique. Et puis, on a le temps de les regarder, donc étant donné qu'ils durent très, très, très longtemps. Mais paradoxalement, eh bien, cette lenteur permet de créer une émotion, autrement que par les dialogues. Ça apporte une grande mélancolie. Le traitement, notamment du temps qui s'écoule à travers la mise en scène, est une très grande réussite du film. Juste un petit détail, je n'ai pas du tout compris la fin. C'est incompréhensible, je n'ai pas compris. Donc peut-être que c'est volontaire. En tout cas, oui, c'est un film qui peut paraître un petit peu hermétique, un petit peu obtus, mais qui est quand même d'une très grande poésie, d'une très grande beauté. Je le conseille.
Ghost Story, c'est dans les salles depuis le 20 décembre, tout comme Jumanji, Bienvenue dans la jungle, qui est un film, mais pas du tout indé.
Et maintenant, quelle est la suite des opérations ?
Cinérama.
On va regarder ça.
Soyez les bienvenus en retenue. Spencer, Bethany, Fridge, Martha. Vous savez tous très bien ce qui vous amène. Vous devriez vous demander qui vous êtes et qui vous voulez devenir. Fort heureusement, vous allez avoir tout le temps d'y réfléchir en rangeant le sous-sol.
Jumanji, c'est au commencement un film culte des années 90, 95 précisément, un film bourré d'effets spéciaux avec Robin Williams et Kirsten Dunst, aux prises avec le redoutable jeu Jumanji, un jeu qui s'immisce dans la réalité en apportant son lot de rhinocéros, lions, singes et même colons, tout cela sur le ton de la comédie et prenant pour personnage deux enfants, histoire de consolider l'identification, car Jumanji est plutôt un film pour les enfants. On peut dire que le film avait bien marché puisqu'il avait dépassé les 2 millions d'entrées en France en pleine vacances de février. Nous voilà maintenant en 2017 avec Jumanji, Bienvenue dans la jungle, un film qui aimerait atteindre le même succès que son prédécesseur mais qui ne part pas sur les mêmes bases. En face de Robin Williams et Kirsten Dunst, dans les années 90, on a Dwayne Johnson, Jack Black, l'humoriste Kevin Hart ou encore l'écossaise Karen Gillan qui joue l'alien Nebula dans Les Gardiens de la Galaxie. Alors premier constat, ça n'est pas la même gamme de comédiens, hein, on le remarque tout de suite. Dwayne Johnson c'est Monsieur Gros Muscle et on a perdu les enfants en route. En guise d'enfant, on a maintenant 4 adolescents qui se retrouvent chacun pour des raisons différentes en col au lycée à devoir débarrasser une cave. Et paf, il tombe sur le jeu Jumanji, une console de jeu des années 90 dont on a vu bien dans le prologue du film qu'elle pouvait aspirer le joueur. Du Jumanji trou craché donc. Dans le film initial, Robin Williams se faisait aspirer dans le jeu en lançant des dés. En 2017, le jeu a donc laissé place à une console vintage et donc les enfants à des ados. Le film élargit sa cible car s'il s'adresse toujours à des enfants, certaines séquences humoristiques vont viser plus haut. Mais le plus gros bouleversement de la version 2017 finalement de Jumanji, c'est peut-être que contrairement à la version 95, ce sont les joueurs qui vont entrer dans le jeu et non pas les créatures du jeu qui vont prendre vie dans la réalité. Ainsi, 4 ados vont disparaître de notre monde pour entrer dans un univers parallèle. Ils vont être propulsés au cœur de la jungle de Jumanji dans le corps d'avatar qu'ils ont choisi. Il y a le geek intello qui va devenir un grand bonhomme musclé taillé pour l'aventure et les missions délicates. Il y a le sportif qui va devenir un zoologiste. La fille repliée sur elle-même qui va devenir une bombasse en short moulant, et enfin la gamine superficielle obsédée par les selfies qui va devenir, comme elle le dit, un vieux gros lard, et c'est Jack Black qui incarne la peste.
Je dois vous dire une chose, je crois que j'ai vraiment beaucoup de punch.
Waouh, il est trop fort.
Ça c'est un homme et un vrai.
Chiale pas, chiale pas. Chiale pas, ça va aller.
Arrête, arrête.
Je le kiffe trop.
Alors, bon, ça c'est peut-être pour sentir l'ambiance un peu, avec un tel décalage entre chaque personnage et leur avatar, le réalisateur exploite le thème de l'acceptation et le dépassement de soi. Alors chacun va dévoiler une facette de sa personnalité insoupçonnable, avec quelques maladresses au passage. La sentence « tu n'as qu'une seule vie » est abondamment surlignée, elle fait référence aux nombreuses vies de bonus que l'on trouve dans les jeux vidéo. Mais rien de sérieux là-dedans, il ne faut pas attendre de ce film une quelconque révélation sur le danger addictif des jeux, le risque d'asocialisation. Non, la critique du jeu est loin d'être lourdingue, elle se nourrit d'autodérision avec des personnages stéréotypés comme ces personnages qui répètent inlassablement leur texte tant qu'ils n'ont pas de réponse. Celui de Dwayne Johnson, intrépide aventurier au regard de tombeur, ou encore le personnage féminin en short sexy qui a un pouvoir particulier, la danse combat, comme si elle était incapable finalement d'être un pur personnage d'action. L'avatar le plus lourd, sans jeu de mots, est celui de Jack Black, comme il est l'incarnation de la bombe du lycée. Celui-ci passe son temps à expérimenter ce corps avec un sexe masculin. Ça nous fait quelques récréations et une séquence pipi dans la jungle. C'est sans doute la bonne idée de ne pas coller à l'original, même s'il n'y a aucune profondeur et aucune véritable originalité dans ce Jumanji. Le film joue la carte de l'humour et de l'aventure, prenant même le risque d'être moins surprenant et moins terrifiant que le premier Jumanji des années 90, qui voit quand même ses effets spéciaux un peu datés. Rien de renversant dans la mise en scène, on peut même penser que le réalisateur n'est pas un habitué des films d'action. Ça laisse plus de place au dialogue, mais sans que les personnages prennent plus d'épaisseur. Remarquez, ils sont tellement stéréotypés dans la vraie vie, comme dans le jeu Jumanji, que c'était perdu d'avance. Cela dit, il y a quelques scènes amusantes et l'ensemble qui se veut un divertissement, mêle aventure, et comédie, bien peut valoir le coup d'œil.
Et comme tout mène à Star Wars, le réalisateur Jack Kasdan, c'est le fils de Laurence Kasdan, qui était scénariste, co-scénariste de L'Empire Contre-Attaque.
D'accord.
Voilà,
ah oui.
C'est tout.
Et le réalisateur, Jack Kasdan, alors moi, j'ai pas vu, il avait fait Bad Teacher et Sex Tape, deux comédies avec Cameron Diaz, que toi, Marine, tu avais vu. Voilà. Alors, ce film, Jumanji, nous donne l'occasion de jouer un blind test avec des films où il est question de jeux vidéo. Alors, soit c'est l'univers du jeu vidéo qui s'immisce dans la réalité, soit c'est la réalité qui va s'immiscer ensuite dans les jeux vidéo. Premier extrait, normalement, c'est facile.
De quel genre de programme est-il ?
Vous n'avez pas affaire à un programme, mais à un concepteur.
Concepteur ?
Exact. Dans le monde réel, il m'en a fait baver. Si on m'en fait baver, je me rebiffe aussi l'ai-je mené ici. Qu'avez-vous, Sark ? Je vous trouve nerveux.
Eh bien, j'avoue qu'un concepteur, ce sont les concepteurs qui nous ont créés. Et les programmeurs qui vous ont écrit.
On ne m'a jamais écrit, moi, car je vaux des millions de leurs années hommes.
Et si jamais j'échouais ?
Préférez-vous courir le risque de m'affronter ?
Film culte ?
Oui, c'était Tron. C'était Tron, première version, il me semble.
Oui, ah oui, oui. Là, avec la voix, il n'y a pas de doute. C'était en 82, film devenu forcément culte. Et c'était Disney hein, qui ça nous raccroche Disney, oui. À Star Wars, encore une fois. Deuxième extrait, encore facile.
Je meurs d'envie de jouer à des jeux. Mais j'ai une phobie, une peur phobique de la pénétration chirurgicale. Tu sais bien ce que je veux dire.
Non, je suis pas sûre de comprendre.
Me faire implanter un bioport. C'est au-dessus de mes forces. Je ne peux pas. Rien qu'à l'idée, j'en ai la chair de poule.
On te perce la colonne vertébrale au pistolet hydropneumatique. On t'implante une prise et c'est tout. Ça se fait n'importe où. C'est comme se faire percer l'oreille.
Ouais, c'est ça. Sauf qu'on a quand même une chance qui n'est pas négligeable de rester paralysé. Je me suis très bien renseigné.
Mêler le corps aux jeux vidéo, à l'univers virtuel, ça vient de...
Existence,
voilà.
De David Cronenberg.
Film de 99 avec Jude Law. Troisième extrait.
Tout commence par une nanocellule que l'on implante dans le cortex moteur. Cette cellule se reproduit et remplace celle qui l'entoure par des copies à l'identique. Et ces cellules jumelles sont conçues pour être contrôlables à distance. De fait, nano plus cortex égale nanex.
Est-il juste que tout individu participant à cette procédure se voit décerner une adresse IP unique comme celle de nos portables ou de nos ordinateurs ?
C'est un peu ça, mais le contrôle du sujet est réduit aux stricts paramètres de nos environnements de jeu. Dans Société, que vous connaissez, une fois qu'un des acteurs quitte le plateau, il est totalement libéré de l'emprise et de la surveillance de son gamer.
Oh, en voilà une bonne nouvelle.
Pour certains, sûrement.
Alors, un petit indice, parce que ça n'a pas été trouvé dans le studio. Alors, là, ce sont des prisonniers qui sont manipulés par des joueurs. On leur implante des je ne sais plus comment ça s'appelle, ces microcellules,
des
nanex. Là, c'était la voix française de Michael C. Hall, absolument agaçant dans ce film. C'est le personnage donc, de Dexter. C'est Ultimate Game.
Ah, oui.
Film de 2009.
Ah, je l'ai vu, mais...
Oui, c'est pas...
J'ai aucun souvenir,
oui.
En fait. Hein.
Ouais. C'est pas étonnant. Quatrième extrait.
On a tous vu que Miller s'était fait poignarder. Selon la police, c'est avec une paire de cisailles. Les amis de Loomis aussi. Sarah, son corps a été vidé de son sang. D'après le rapport de police, Loomis a eu la nuque brisée et dans le jeu, il a fini pendu. Ils sont tous morts comme ils sont morts dans le jeu. C'est sûr que c'est pas une simple coïncidence.
Alors, c'est un slasher. Voilà, film de 2006.
C'est pas Identity ? Non.
Non. Alors...
Un slasher de 2006.
Il y a des personnages qui disparaissent et ils sont donc... C'est ensuite un caractère d'un jeu vidéo qui vient se venger. C'est Stay Alive, de William Brett Bell, film de 2006. Voilà, bon, qui, à mon avis, s'oublie facilement. Dernier extrait pour ces blind tests spécial jeux vidéo.
Mais est-ce que ça tient debout ? Ça a un sens ?
Quoi, debout ? Qu'est-ce qui a un sens ?
Ça !
Non, écoutez, je n'ai malheureusement pas le temps de tailler une bavette maintenant.
Général, êtes-vous vraiment décidé à détruire l'ennemi ?
Un peu, oui.
Et croyez-vous que les Russes le sachent ?
On a été assez clair, il me semble.
Alors, n'en faites rien. Dites au président d'annuler cette attaque.
Général, ils attendent notre décision.
Beringer, est-ce que vous pensez vraiment que l'ennemi vous attaquerait sans provocation, avec missiles, bombardiers, sous-marins, en ne nous laissant pas d'autre choix que de les anéantir ?
Ah, c'est une petite explication de l'art de la guerre, Manu.
Et c'est War Games de John Badham, film de 83,
oui,
me semble.
Avec Matthew Broderick. Ainsi s'achève bien ce blind test spécial jeux vidéo. Il n'y en avait pas tant que ça de films à trouver finalement. Et on passe maintenant eh bien, à la belle Calas.
Je ne me souviens pas du nom.
Cinérama.
Les hommages.
Maria Baikalas est un documentaire à la première personne de Tom Wolfe, consacré bien entendu à la plus célèbre des cantatrices, et composé d'images d'archives relatant sa carrière de 1950 jusqu'à sa mort prématurée à 53 ans en 1977. Alors les images étant presque toutes tirées de ses apparitions publiques, le parti pris du documentaire était intéressant. Il s'agissait de raconter l'intimité de la femme à travers des interviews télé et des images quasi officielles, mais aussi, en parallèle, à travers des lettres qu'elle a écrites à ses proches, des lettres toutes inédites, comme si finalement, eh bien, elle se racontait elle-même. Le parti pris du film est donc un peu casse-gueule pour lier les images d'archives entre elles et révéler de façon plus intime ce personnage. Les lettres de la cantatrice sont lues par une voix off, en l'occurrence celle de Fanny Ardant. Or, la comédienne ayant un timbre de voix très particulier et très identifiable, on a un peu de mal à faire le lien entre les deux puisque l'on jongle sans cesse entre la vraie voix de Maria Callas et la voix de celle qui l'interprète. Mais ce choix s'explique aussi par le fait que l'on aborde la dualité entre la femme et la cantatrice, et c'est d'ailleurs davantage de la femme qui est question et qui se révèle une personnalité passionnante.
I like to think that they both go together because Callas has been Maria.
Écoutez, vous êtes une femme heureuse.
Ça, c'est vrai. Il faut que je le pense plus souvent.
Alors, Maria Callas est également, bien entendu, une voix, et pas seulement lorsqu'elle chante, mais également quand elle parle. Elle a une aura certaine, une présence folle, un phrasé particulier, et rien que cela nous passionne pour les images d'archives que l'on nous montre. C'est aussi l'occasion eh bien, de démonter quelques clichés véhiculés par la presse à l'époque, comme son prétendu caractère de diva et ses prétendus caprices. En revanche, les interventions extérieures sont rares, ce qui met à mal l'objectivité du documentaire, qui est loin du coup d'être exhaustif. On parle peu de ses débuts de carrière d'actrice, par exemple. Il est compliqué de se faire donc une opinion sur la Callas, puisque l'on n'a pratiquement aucun autre point de vue sur elle que le sien. Attention également, hein, si vous êtes un peu rétif à l'opéra, vous allez prendre cher. La plupart des enregistrements de la Callas sur scène sont diffusés dans leur intégralité. Alors si ce parti pris peut s'expliquer par le fait qu'il faille laisser l'art de la cantatrice s'exprimer, évidemment, c'est tout de même assez révélateur de la paresse de la mise en scène. Hein, côté forme, pas ou peu d'inspiration, seulement un enchaînement d'images d'archives dignes d'un documentaire télé, sans véritable idée de montage. L'ensemble est donc très académique, même si vraiment grâce à sa personnalité, c'est très intéressant et on se laisse volontiers entraîner dans les deux heures du documentaire.
Merci Marine, rien à voir entre la Callas et Charlotte Gainsbourg, elle aussi chanteuse mais également comédienne dans La Promesse de l'Aube.
Voyez ce que vous pouvez nous concocter de beau dans ces 5 minutes.
Cinérama,
c'est un passe-temps surprenant.
Avec l'amour maternel, la vie vous fait à l'aube une promesse qu'elle ne tient jamais. Après cela, chaque fois qu'une femme vous prend dans ses bras et vous serre sur son cœur, ce ne sont plus que des condoléances.
Adapter un roman n'est jamais chose facile, tous les lecteurs vous attendent au tournant. Il y a fort à parier que certains vont en vouloir à Éric Barbier de s'être attaqué à La Promesse de l'Aube, un roman d'aventure de Romain Gary qui retrace plus ou moins fidèlement un 20 ans de la vie de l'auteur qui est connu dans la littérature française pour avoir emporté le Goncourt sous deux noms différents, Romain Gary et Émile Ajar. Alors dans ce livre, l'auteur ne raconte pas sa vie, mais aussi, pas seulement sa vie, mais aussi celle de sa mère, et c'est bien ce qui intéresse le réalisateur Éric Barbier. Car dans ce livre, on peut y voir l'amour fou d'une mère pour son fils, le portrait d'une femme singulière, une déclaration d'amour de son fils à sa mère, et le parcours d'un homme qui fait tout pour ne jamais la décevoir. Elle qui place en son fils le destin d'un écrivain, d'un diplomate, d'un officier, tout cela à la fois, en plus d'être français, lui qui a vécu toute son enfance en Pologne. Mais lui, l'enfant, l'adolescent, l'adulte, ne semble avoir d'autre choix que de promettre à sa mère de devenir célèbre. Alors quand on sait évidemment que Romain Gary l'est devenu, on mesure quelque chose de vertigineux dans cette relation. Il n'est pas permis d'aimer un être à ce point futile, sa mère, disait Romain Gary en parlant donc de sa mère Nina, ancienne actrice russe devenue marchande de chapeaux avant de quitter la Pologne pour la France dans les années 20.
Mon fils, je veux que tu sois célèbre de ton vivant. Un jour, tu seras Victor Hugo. Ambassadeur de France. Mon fils, il ne t'arrivera rien. Tu vas réussir. Tu vas gagner. Parce que je ne t'ai pas appris autre chose. Et le monde reconnaîtra ton talent.
Je me fis la promesse de redresser le monde et de le déposer à ses pieds.
Alors, le pari d'Éric Barbier était de faire du roman un film populaire, un film d'aventure, plus qu'un biopic, des intentions que l'affiche a du mal à cacher. Hein. À dominante blanche, on y voit Pierre Ninet, un flingue à la ceinture, marchant dans le désert, et une Charlotte Gainsbourg, presque soucieuse, qui semble regarder son fiston. Alors pendant plus de deux heures, la mise en scène oscille entre ces deux personnages pour en dévoiler la singularité. Avec ça, alors on voyage, hein, car le fils et la mère ne restent pas en Pologne avec son froid et sa neige, mais rejoignent très vite Nice, sa lumière, son soleil et son accent. La France, telle que la pense Nina ou Victor Hugo a été président, est le seul pays qui peut accueillir le futur talent de son fils. Mais il y a aussi le service militaire, la guerre, l'Afrique, Londres. Le spectateur est trimballé, témoin d'une vie qui se construit. D'un côté, Nina, la mère, incarne une femme forte, ingénieuse, obnubilée par le destin de son fiston, on l'a compris, dirigiste à souhait, radicale mais aimante, évidemment. Dans ce registre, Charlotte Gainsbourg excelle, restant malgré l'accent polonais et les postures, accent qu'on vient d'entendre, elle reste toujours en dessous du cabotinage. Quant à Pierre Ninet, qu'on voit comme sa mère à plusieurs âges de la vie, il compose un personnage écrasé, dévoué, torturé et également très appliqué à être écrivain et à vivre une vie engendrée par l'amour qu'il porte à sa mère. Alors le problème de ce genre de film est son application qui est imposée par le budget qu'il coûte, 20 millions d'euros, afin d'en donner à tout le monde. Les scènes intimistes, les scènes d'action, dont de très belles séquences aériennes, les scènes de comédie ou dramatique sont dosées de telle manière qu'elles finissent par diluer la mise en scène dans un ensemble qui en fait un tout digeste mais quasi ininterrompu. On a pourtant le temps, pour peu qu'on le prenne, de se demander si cette mère est une bénédiction ou un malheur pour ce fils unique. Le film ne prend pas parti. Comme le livre, j'imagine, Éric Barbier laisse aussi libre cours à une interprétation entre conte, biographie et aventure fantasque. Le souffle épique qui traverse la promesse de l'aube rend probablement justice au roman, peut-être de manière imparfaite. Alors une fois que le générique tombe et que Pierre Ninet a décoché sa dernière réplique, on se dit qu'on a vu un film bien assemblé, sans réelle audace, et que finalement, c'est pas si grave. Alors, bien sûr, il y a trois personnages de Romain Gary. Il y a celui qui est jeune, il y a l'adolescent, et puis il y a celui interprété par Pierre Ninet. Il y a aussi des apparitions qui font plaisir à voir, celle de Didier Bourdon en acteur alcoolique, et Jean-Pierre Darroussin en peintre mièvre, qui les deux font des belles apparitions. Et il y a aussi Finnegan Oldfield, qui lui avait pas grand-chose à faire, mais le fait bien, puisqu'il a pas grand-chose à faire. Voilà, La promesse de l'aube, film d'Éric Barbier, c'est dans les salles depuis le 20 décembre.
Voyez ce que vous pouvez nous concocter de beau dans ces 5 minutes.
Cinérama.
On va regarder ça.
Après La fille du désert et La prisonnière du désert, hein, signés respectivement par Raoul Walsh et John Ford, voici La fiancée du désert. Un titre alléchant qui, dans l'inconscient collectif de tous ces défis, évoque l'univers du western. Alors même si les deux réalisatrices, Cecilia Attan et Valeria Pivato, magnifient un superbe décor naturel grâce à une lumière très sophistiquée, assez loin d'ailleurs du naturalisme inhérent à certains cinémas d'auteur, ce film argentin n'a rien d'un western, vous vous en doutez. Il s'agit d'un énième portrait de femme esseulée enrobée de joliesse esthétique, et ce fameux désert n'est qu'un symbole métaphorique censé représenter le vide intérieur d'une quinquagénaire qui n'a jamais pris le temps de penser à elle. Alors cette quinquagénaire, c'est Teresa, employée de maison, qui a passé sa vie au service des autres. Congédiée, elle est envoyée à l'autre bout du pays pour un nouveau travail. Elle s'embarque alors dans un voyage où elle fait la connaissance d'un vendeur ambulant, bourru mais attachant, suite à une histoire de sac perdu. Alors ces deux blocs de solitude traversent le désert argentin en camion et finissent par se séduire. Alors construit comme un road movie assez conventionnel qui ne sort jamais des sentiers battus, La fiancée du désert déçoit beaucoup. Surtout pour un premier film, mais il y a quelque chose d'assez désolant d'assister à un film si rigide, si engoncé dans son savoir-faire bien pensant. L'emploi systématique des non-dits à coups de silence pesant devient une marque de fabrique contre-productive et bien plus explicative au final. Alors les rapports entre les personnages qui se voudraient poétiques et délicats finissent par indifférer à force d'enfoncer des portes ouvertes. Ah oui, tous ces braves gens qui ont souffert dans la vie méritent une seconde chance. Le regard angélique posé sur les deux protagonistes est assez laborieux. Alors pour combler l'ennui que procure cette chronique pénible, on se rattache à sa forme, habile bien que trop voyante. Les réalisatrices usent d'un procédé élégant en le systématisant tout fois à chaque fois. Alors construire un cadre à l'intérieur d'un autre cadre défini, en l'occurrence le scope, elles instaurent au début plusieurs plans carrés, voire plus serrés encore en utilisant les ouvertures de portes, les pièces, les fenêtres, pour bien montrer l'étroitesse de la vie de Teresa, qui ne s'est jamais autorisé le bonheur. Au fur et à mesure que le film avance, les cadres dans le cadre s'élargissent jusqu'à imploser de 35 dans une scène de bar où le visage de Teresa s'illumine. Alors ce n'est pas inintéressant, mais assez scolaire en fin de compte, typique d'un projet de fin d'études. Les réalisatrices ne sont pas dénuées de talent, mais leur film est désespérément lisse, trop lent aussi pour convaincre, malgré l'interprétation nuancée de Paulina Garcia. Garcia, remarqué dans un autre film argentin, Gloria.
Eh bien, merci Mani, tu as ouvert cette émission avec un film qui se passe dans l'espace et tu l'as refermé avec un film qui se passe dans le désert.
Alors méfiez-vous des apparences et contrôlez toujours qui est qui.
Qui est qui?
Il n'a pas contrôlé qui est qui.
Quoi, qui est qui?
Bah quoi, qui est qui, quoi?
Eh bien, qu'y a-t-il?
Auriez-vous oublié que nous partons?
La séance est levée.
Je crois que nous n'avons plus rien à nous dire.
Inutile d'avoir des regrets, c'est trop tard.
On se retrouve la semaine prochaine avec des films qui sortent le 29 décembre, de quoi bien terminer l'année. Il y aura L'échange des princesses pour ma part et un film islandais.
Et moi, je parlerai entre autres d'un film qui s'appelle I Am a Witch.
Et moi, d'un film chinois, Le Rire de Madame Yin, et une sortie DVD, Opéra, de Dario Argento.
Et on jouera un blind test spécial film 2017.